10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transistor. Vous écoutez Le Monde ne suffit pas, votre émission d'actualité internationale. Aujourd'hui, LMNSP vous propose un zoom sur les primaires républicaines aux États-Unis. Nous vous avions proposé un premier numéro à ce sujet au mois d'octobre avec Leila Rosler, professeure d'anglais et de civilisation américaine, que vous pouvez toujours écouter sur notre site. Pour résumer brièvement à nos auditeurs comment les choses ont évolué depuis notre dernière émission, sachez tout d'abord que les élections État par État ont commencé au mois de janvier. Les résultats les plus récents, ceux de ce mois de février, ont donné la victoire à Mitt Romney dans le Nevada et dans le Maine et à Rick Santorum dans le Colorado et le Minnesota. Pour l'instant, les habitants de 8 États se sont déjà prononcés. 4 ont désigné Mitt Romney comme leur candidat favori, 3 Rick Santorum et un État a désigné Newt Gingrich. Les prochains à voter seront les républicains du Michigan au début de la semaine qui vient. Les sondages les plus récents annoncent Rick Santorum en tête, alors même que le Michigan est l'état d'origine de Mitt Romney et celui dans lequel le père de celui-ci a été gouverneur. À l'échelle nationale, Rick Santorum est d'ailleurs passé en tête des sondages, devançant de peu Mitt Romney, gouverneur du Massachusetts de 2003 à 2007 et candidat malheureux à la primaire républicaine de 2008. Celui-ci demeurait le favori jusqu'à présent. Mais c'est toujours Mitt Romney qui détient à ce jour le plus grand nombre de délégués déclarés déjà élus. Pour nous aider à décrypter tous ces éléments assez complexes, nous sommes aujourd'hui avec Nina Léger, notre correspondante sur place en direct de New York. Bonjour Nina.
Bonjour à tous.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
Il faut attendre la fin du mois d'août pour savoir quel républicain sera l'adversaire d'Obama à la présidentielle. Les primaires ont pourtant commencé, donc, comme on l'a dit, au début du mois de janvier. On peut être étonné qu'elles s'étalent sur une période aussi longue. Peut-être, Nina, peux-tu nous rappeler le déroulement de ce processus électoral ?
Alors le processus est en effet très étonnant, notamment sans doute pour des Français déjà, parce que comme tu l'as dit, il s'étale sur une très longue période de temps et aussi parce qu'il se déroule selon plusieurs modes de scrutin. On a d'abord les caucus. Alors les caucus sont assez étranges parce que ce sont avant tout des discussions, des débats auxquels ne peuvent participer que les personnes inscrites, militants du parti concerné. Chaque groupe soutient un des candidats et prend la parole lors de débats pour essayer de convaincre la majorité des électeurs. Et les caucus peuvent s'étaler sur très longtemps. Et autre détail assez exotique, le vote se fait généralement à main levée. Il y a ensuite les primaires, vote plus traditionnel, celui qu'on connaît le mieux. On parle d'ailleurs souvent des primaires américaines. Donc là, c'est un vote avec bulletin. Il y a des primaires fermées et des primaires ouvertes. Primaires ouvertes, donc c'est en fait le mode de primaire qu'on a connu en France, avec les primaires du Parti socialiste.
D'accord, donc en effet, une grande diversité des modes de scrutin. Et les électeurs qui participent à chaque fois désignent-ils directement un candidat ?
Alors non, autre complexité, en fait, les électeurs votent pour des délégués. Le nombre de délégués varie par État et les délégués élus se réunissent ensuite à la Convention républicaine qui se tient en août, fin août, du 27 au 30, pour élire le candidat à la présidentielle. C'est pour ça qu'on ne connaîtra officiellement le candidat républicain qu'à la fin du mois d'août. Cette année, on compte 2288 délégués républicains. Alors, d'accord, il y a encore une différence, c'est-à-dire que si la plupart des délégués s'engagent clairement en faveur de tel ou tel candidat, tu l'as dit pour le moment, Mitt Romney est celui qui détient en quelque sorte le plus de candidats déclarés, d'autres délégués refusent de choisir tout de suite, de s'engager clairement. Et les électeurs leur font ainsi confiance, mais c'est presque un vote à l'aveugle. Et en fait, par exemple, c'est sur ces délégués non encore certains de leur vote qu'un candidat comme Ron Paul compte. Et il espère récupérer un maximum de voix au moment de la convention du mois d'août.
D'accord, donc il y a encore tout de même de l'incertitude jusqu'à la date finale du 30 août. Et lors de cette convention, justement, qui va se tenir à la fin de l'été, est-ce que tous les électeurs qui se seront mobilisés pour ces primaires seront représentés ?
Alors là encore, les choses varient. Je pense que les Américains eux-mêmes ne comprennent pas exactement ce système des primaires. Là encore, les choses varient, puisque selon l'État, parfois, on a un système qui correspondrait plutôt à la proportionnelle, c'est-à-dire que le nombre de délégués retenus en faveur d'un candidat correspond au pourcentage de voix obtenues par ce candidat. Mais dans beaucoup d'États, c'est assez différent. Par exemple, en Floride, c'est la règle du « winner takes all », donc le gagnant remporte tout. C'est-à-dire que le candidat ayant emporté le plus de voix sera celui qui sera soutenu par l'ensemble des délégués. Et c'est pour ça que la victoire de Romney en Floride était assez importante, puisque c'est un État qui comporte en plus beaucoup de délégués.
Très bien, tout cela est plus clair à présent, merci beaucoup. Venons-en maintenant aux candidats restés en lice. Donc de 9 qu'ils étaient au départ, ils ne sont plus que 4 aujourd'hui. Mitt Romney, Rick Santorum, Newt Gingrich et Ron Paul. Nina, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ces différents candidats ?
Alors allons-y pour une petite galerie de portraits. Je propose de commencer par le plus atypique en fait. Le plus atypique, c'est Ron Paul. C'est sa troisième candidature aux primaires républicaines. Et Ron Paul en fait est très conservateur. Donc il a évidemment ses positions pro-life, c'est-à-dire contre l'avortement, évidemment aussi contre le mariage homosexuel, mais ce qui définit avant tout Ron Paul, c'est qu'il est libertarien.
Exactement.
Libertarien, ça signifie qu'il veut réduire le gouvernement au minimum. Et ceci l'a amené à prendre des positions, ses convictions l'ont amené à prendre des positions qui diffèrent grandement des positions mainstream du Parti républicain. Par exemple, Ron Paul est en faveur de la fermeture de toutes les bases américaines, toutes les bases militaires américaines à l'étranger, ce à quoi s'oppose fermement la majorité des républicains. Il est aussi pour l'abolition de la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine. Donc Ron Paul est très atypique dans son parti. On sait quasiment que Ron Paul ne pourra pas l'emporter parce que, donc, comme je vous le disais, l'establishment républicain le déteste, en fait. Mm-hmm. Et s'il n'a pas le soutien des principaux médias, par exemple, de Fox. Fox est Ron Paul. Et donc, c'est sa troisième candidature, il ne pourra pas l'emporter. Quel est son but ? Son but est sans doute avant tout de chercher une tribune pour ses idées qui sont assez populaires en ce moment dans le contexte de crise, etc. Et donc, la question est jusqu'à quand Ron Paul va-t-il rester dans la course ? Maintenant, à des candidats plus sérieux, l'ancien rival de Romney, Newt Gingrich. L'ancien rival, puisqu'il a été donné longtemps favori ou au coude à coude avec Romney avant de plonger assez dramatiquement dans les sondages et dans les élections. Alors, quel est le passé de Gingrich ? C'est un vrai politique. C'est un ancien président de la Chambre des représentants. Il a été connu pour s'être beaucoup opposé à Clinton. Mais aussi, l'autre facette de Gingrich, c'est la facette homme d'affaires. Il a été employé ces dernières années de Freddie Mac, qui est une compagnie d'assurance qui a une grosse responsabilité dans la crise. Et Gingrich est ainsi accusé de collusion avec Wall Street, ce qui est assez mauvais pour une image dans un contexte de crise économique. Alors Gingrich est conservateur, même topo contre le mariage homosexuel, etc. Il a eu quelques propositions plus souples, notamment sur l'immigration, proposant d'intégrer les immigrés illégaux déjà installés aux États-Unis. Et puis il a aussi eu quelques propositions assez fantaisistes qui montrent sans doute qu'il n'aurait pas la crédibilité nécessaire pour diriger un pays comme les États-Unis. Une de ses propositions, rapidement, c'était de rétablir en fait le travail des enfants pour les enfants issus de familles défavorisées, proposer aux enfants de travailler notamment dans leurs écoles, comme, je ne sais pas, pour faire le ménage ou à la cantine.
Ah oui, effectivement, c'est assez original.
C'est assez original, oui, oui. Et les deux arguments ne le sont pas moins, puisque ce qu'il considérait, c'est que ça permettrait, un, de faire des économies aux écoles, très probablement, en soutenant les enfants, et deux, d'apprendre aux enfants de familles défavorisées la valeur de l'argent. Est-ce que ce sont vraiment les pauvres qui ont besoin de connaître la valeur de l'argent ? Je n'en suis pas certaine, mais je ne voudrais pas prendre position, donc je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. Je vous laisse juste.
Restons prudents, mais effectivement, c'est une proposition qui paraît assez exotique.
Et donc, qu'en est-il du nouveau favori, Vic Santorum, le nouveau rival de Mitt Romney? Il est sans doute le plus conservateur dans la course cette année, avec les mêmes propositions, opposition à l'avortement, opposition au mariage gay. Il a d'ailleurs tenu quelques propos sur l'homosexualité choquant, l'homosexualité de la pépite, de s'attarder là-dessus. Alors, ces positions ultra-conservatrices le conduisent, par exemple, à s'opposer fermement au mouvement libertarien, donc à Ron Paul. Selon lui, finalement, les individus ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, ils ont besoin de règles, d'institutions qui les contrôlent.
Oui, parce qu'on peut souligner que les positions libertaires de Ron Paul l'ont en fait conduit à soutenir des positions un peu moins conservatrices socialement. Notamment, il a fait remarquer que l'État n'avait pas vraiment son mot à dire concernant les choix de mariage des individus.
Exactement. Quand bien même Ron Paul dit qu'il est complètement opposé au mariage homosexuel, selon lui, ce n'est pas à l'État de prendre des mesures pour permettre ou empêcher le mariage homosexuel. Et voilà. Donc Ron Paul et Rick Santorum, quand bien même ils sont tous les deux très conservateurs, sont très très différents. Donc conservateur ne suffit pas pour définir un candidat. Et sur Rick Santorum, une dernière chose, en effet, peut-être qu'on pourrait dire qu'il est trop conservateur, trop extrême pour une grande partie de l'électorat républicain. Deux exemples, il souhaite supprimer Medicare, qui est en fait une sorte d'assurance sociale pour les personnes âgées. Medicare n'a pas été réalisé par un gouvernement démocrate, mais par George Bush Jr. lui-même. Et sur la politique étrangère, il est aussi assez extrême, puisqu'il envisage sans faiblir l'idée d'entrer en guerre avec l'Iran pour se prémunir de la menace atomique, un sujet sur lequel la plupart des républicains sont beaucoup plus prudents.
D'accord.
Je pense au favori, au vrai favori, enfin à celui qui l'était jusqu'à il y a quelque temps, Mitt Romney, qui est donc le candidat de l'establishment républicain, qui paraissait le plus apte à battre Barack Obama. Alors, j'aurais un peu de mal à vous dire quelles sont les positions de Mitt Romney, parce qu'à vrai dire, il est le parfait prototype de ce qu'on appelle ici un flip-flopper. C'est-à-dire que si vous observez, si vous écoutez les discours que tenait Mitt Romney lorsqu'il était candidat pour devenir gouverneur du Massachusetts, ce qu'il a été pendant des années, Mitt Romney se présentait presque plus comme un indépendant, comme un républicain, niait tout conservatisme dans ses idées. Il était très favorable à l'avortement, etc. Si vous regardez les vidéos et les discours qu'il tient aujourd'hui, c'est l'opposé. Ce sont les antipodes. C'est-à-dire que Mitt Romney va de profession de foi de conservatisme en profession de foi de conservatisme. Il a des positions extrêmement strictes sur l'avortement et opposé à l'avortement. Et donc, c'est très difficile de savoir ce que pense Mitt Romney. À mon avis, il n'a pas tant de convictions. Simplement, joue de manière stratégique en essayant d'envisager comment gagner ses primaires républicaines.
Et ces retournements de veste sont sévèrement critiqués par ses adversaires qui utilisent ça comme un signe de non-crédibilité, en fait.
Évidemment, oui, oui. Par exemple, dans une des publicités que le camp Gingrich a diffusée à la télévision, ils opposaient Mitt Romney, le timide, celui qui n'a pas d'avis, celui qui change d'avis, qui ne saura prendre aucune décision, à Newt Gingrich, le courageux, he's bold. C'est la publicité. Et toute la publicité reposait en fait sur cette rhétorique binaire.
D'accord. Et est-ce qu'on pourrait dire que de manière plus générale, c'est pas seulement chez Mitt Romney, mais dans cette élection à l'échelle plus globale, qu'on observe une dérive vers la droite et vers des positions plus conservatrices que ce à quoi on aurait pu s'attendre?
Oui, très certainement. Et d'ailleurs, Mitt Romney en est en fait la parfaite image, puisque c'est en observant le paysage républicain, en voyant combien il s'était déplacé vers la droite, qu'il a modifié ses positions et qu'il tente de se donner une image de conservateur bon teint, en fait. Et ce qui est très, très étonnant, c'est qu'on s'est aperçu que, par exemple, George W. Bush n'aurait pas pu, aujourd'hui, gagner les primaires républicaines. C'est la même chose pour McCain. Ils avaient des profils trop centristes, pourrait-on dire, en tout cas, pas assez conservateurs. Et ceci pose tout de même une question, c'est-à-dire que si les élections républicaines se gagnent aux extrêmes, Le problème est que les élections générales auxquelles va concourir celui qui remportera la candidature républicaine, ces élections générales se jouent davantage au centre. Le vote capital est celui des indépendants, c'est-à-dire ceux qui sont indécis, qui votent tantôt démocrates, tantôt républicains. Ce sont eux qui avaient donné la victoire à Obama en 2008. Et la question est donc, est-ce qu'un candidat issu d'un vote extrêmement conservateur pourra l'emporter à l'échelle nationale ? C'est compliqué. Est-ce que si Mitt Romney est élu candidat républicain, est-ce que cela signifie qu'au moment, de l'élection générale, il devra à nouveau retourner sa veste pour professer des positions beaucoup plus souples que celles auxquelles il se réfère maintenant ? Les questions sont ouvertes, mais stratégiquement, le tournant qu'a pris le Parti républicain est assez étrange.
Et est-ce que ce tournant est dû à la présence du Tea Party ?
Alors, très certainement. Très certainement, il y a eu un changement. C'est assez facile à dater. C'est vrai qu'il y a eu un changement à partir du moment où John McCain, dans les élections 2008, a choisi Sarah Palin pour être future vice-présidente avec lui. Très certainement, il y a eu un tournant. Ce qui est étrange, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on ne parle plus tellement de Sarah Palin et que la candidate, entre guillemets, officielle du Tea Party aux élections aux primaires républicaines, Michelle Bachmann a dû abandonner après des pronostics extrêmement mauvais dans les sondages. Donc, pas de candidat officiel du Tea Party dans ces primaires. Après, évidemment, d'autres candidats comme Rick Santorum font sans relâche des appels de pied au Tea Party.
D'accord, très bien. Et est-ce que, finalement, avec ces différents ensembles d'électeurs, en fait, les déçus d'Obama ou ceux qui s'opposaient à lui dès le début, les déçus d'Obama donc pour les indépendants dont tu parlais ou ceux qui s'opposaient à lui dès le début du fait de leur position plus à droite sur l'échiquier politique, trouvent-ils leur compte dans cette campagne ?
Alors c'est assez compliqué, c'est-à-dire que beaucoup de républicains n'en démordront pas et vont voter pour un candidat, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de tout sauf Obama chez les républicains. Mais on peut tout de même remarquer une sorte de désenchantement, avec l'idée d'un Mitt Romney qui serait le candidat par défaut. Dès qu'on entend des interviews, des entretiens d'électeurs à la sortie des urnes, beaucoup disent « je souhaiterais qu'il y ait un autre candidat, mais il faut battre Obama, donc j'ai voté pour telle personne ». Et souvent, comme je vous disais, c'est Mitt Romney qui semble le plus crédible pour battre Obama. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a aussi une sorte... On a l'impression que les électeurs cherche quelqu'un d'autre que Romney, puisqu'il y a eu un phénomène assez étrange, c'est-à-dire que, au fur et à mesure, des candidats ont été propulsés par les sondages, puis sont retombés dans l'ombre. Il y a eu Michelle Bachmann, donc on dit qu'elle pouvait battre Mitt Romney, puis finalement elle s'est effondrée. Il y a eu Rick Perry, dont on a été certain qu'il avait remporté la candidature républicaine, puis Rick Perry s'est effondré et est sorti de la course. Il y a ensuite eu Herman Cain, tout le monde s'est ensuite aperçu qu'Herman Cain c'était pas possible et Herman Cain a dû abandonner. Puis il y a eu Newt Gingrich, dont on s'est aperçu que sans doute il pouvait concurrencer Romney, et maintenant Newt Gingrich est en grande difficulté. Alors maintenant il y a Santorum. Il faut savoir que personne ne donnait une chance à Santorum au début, il était candidat, tout le monde se moquait.
Ces victoires récentes constituent une grande surprise pour les observateurs américains.
C'est ça, c'est à la fois une grande surprise et en même temps c'est la continuation de ce phénomène que je décrivais de candidats propulsés sur le devant de la scène avant de s'effondrer parce qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune crédibilité et aucune compétence. Donc on va voir ce qu'il va devenir avec Santorum. C'est vrai qu'il est maintenant le favori, il a dépassé Mitt Romney dans certains sondages, il est en tête pour le primaire à venir. On va voir ce qu'il adviendra. N'empêche que Romney a toujours cet atout, c'est qu'il apparaît pour beaucoup d'électeurs le seul candidat qui pourrait battre Obama.
D'accord. Et pour finir, on voulait aborder la question des modes de campagne. En effet, deux particularités sautent à nos yeux d'observateurs français. Tout d'abord, une décision récente de la Cour suprême américaine a institué ce qu'on appelle des PAC, des Political Action Committees, qui ont ensuite été autorisés à se transformer en super PAC. Ces organismes sont en fait des intermédiaires entre des donateurs, des entreprises, des syndicats ou des particuliers qui souhaitent soutenir la campagne de tel ou tel candidat et les candidats bénéficiaires. Et le fait de pouvoir devenir un super PAC permet aux dons concernés, de n'avoir aucune limite et en outre de rester anonyme, ce qui donne lieu à des chèques de plusieurs millions de certains particuliers ou de certaines entreprises en faveur de certains candidats. Et cet argent est ensuite utilisé par ces organismes pour promouvoir le candidat favori du Super PAC et aussi pour descendre ses adversaires. En effet, une autre particularité qui peut nous surprendre, nous, ici en France, est que dans les campagnes américaines, il est autorisé de faire ce qu'on pourrait appeler de la publicité négative, c'est-à-dire de diffuser un certain nombre de clips vidéo, d'affiches, donc comme ceux dont tu parlais tout à l'heure, qui consistent uniquement à décrédibiliser un autre candidat. Ce sont ce qu'on appelle les « attack ads », et qui sont souvent donc financés par ces super PAC. Donc Nina, est-ce que tu pourrais nous parler de ces nouveaux organismes qui gèrent ainsi les fonds de campagne et qu'est-ce qu'ils financent exactement, comment fonctionnent-ils et qu'est-ce qu'ils ont changé?
Alors les Political Action Committees, en effet, c'est donc une mesure très récente qui intervient dans cette élection. Le président Obama avait dit qu'il s'y opposait, mais finalement ces super PAC permettent de lever tellement de fonds que Obama va y avoir recours, ne pas se permettre moins d'argent que ses rivaux. Alors, ces super PAC sont, en fait, pour les définir, on pourrait dire qu'ils sont très hypocrites, parce qu'ils ont été autorisés au nom de la liberté d'expression et d'opinion, et ils reposent sur l'idée, le principe, qu'en fait, le super PAC est indépendant du candidat lui-même. C'est pour ça qu'on peut donner des millions à ces super PAC, et qu'il y a donc un déplafonnement des dons. Mmh. Et c'est une grande hypocrisie, puisqu'évidemment, il y a des liens entre les super PACs et les candidats eux-mêmes. Si on prend l'exemple de Santorum, il est notamment financé par le millionnaire, ou sans doute milliardaire, Foster Fries. Et ça a donné lieu à une scène assez étonnante, c'est-à-dire que lorsque Santorum a gagné les primaires du Colorado, il est ensuite donc monté sur scène pour toute son équipe de campagne. Il a congratulé tout le monde, serrant les mains, faisant la bite, etc. Et il y a une personne qu'il a ignorée. Il est passé devant cette personne en faisant comme s'il était invisible, en lui serrant pas la main. Et cette personne, c'était Foster Fries. Donc, celui qui permet à Santorum de faire campagne, celui qui lui donne de l'argent. Mais Santorum doit prétendre qu'il ne connaît pas Foster Fries pour attester l'indépendance de ses sources de financement. Voilà donc à quoi peuvent mener les super PACs. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de distorsion dans la campagne cette année à cause de ces super PACs, puisque certains candidats auraient dû abandonner la campagne il y a longtemps. Par exemple, Newt Gingrich, après toutes les défaites qu'il a connues, aurait dû abandonner. Mais grâce au milliardaire qu'il soutient, Sheldon Adelson, ce milliardaire fait des chèques, continue à faire des chèques, 10 millions de dollars, 11 millions de dollars, et permet à Gingrich de rester dans la campagne.
Il semble donc qu'il y aurait presque une sorte d'évincement des mécanismes politiques, en fait. On peut citer la phrase de David Donnelly, qui dirige le Public Campaign Action Fund, une organisation qui milite en faveur d'une réglementation accrue du financement des campagnes. Il a dit « Il y a sans doute moins de 100 personnes qui financent 90% de ces fonds », ce qui donne vraiment l'image de campagne permise, comme tu le disais justement, par un nombre très restreint de grosses fortunes de milliardaires. On peut se poser la question de l'influence de ces très grosses fortunes dans les élections et celle de savoir si en fait le vainqueur ne sera pas tout simplement celui qui compte le plus de ces milliardaires parmi ses amis.
Effectivement, l'argent joue un rôle incompréhensible pour nous en France. C'est particulier cette année, mais ça a toujours été comme ça. C'est dans la culture politique des États-Unis, tant dire. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est comme je vous le disais avec Gingrich, c'est-à-dire que c'est la question de pouvoir rester ou non dans la course. On a donc l'impression qu'un candidat qui n'en porterait pas de voix pourrait rester indéfiniment grâce à l'argent et non pas grâce au support politique des électeurs. Alors, indéfiniment ou pas, par exemple, Gingrich est en difficulté en ce moment puisque sans doute son milliardaire a annoncé qu'il ne signerait plus de chèque. Donc sans doute que Gingrich va devoir se retirer à cause du manque d'argent. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des inégalités immenses même entre les candidats. Par exemple, Romney a des ressources financières supérieures à celles de tous ses rivaux réunis. Déjà parce que Romney a aussi une fortune personnelle très très importante. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, celui qui a le plus d'argent de tous, c'est Obama. Parce qu'Obama a, lui, plus de réserves, plus de disponibilité financière que tous les candidats républicains réunis, Romney inclus.
D'accord. Et mais on peut souligner le contraste entre les fonds possédés par Obama, notamment ceux auxquels il faisait appel lors de sa campagne de 2008, quand il invitait ses électeurs, même les plus modestes, à contribuer avec des sommes de 5 dollars, même si cela leur était possible. Ce qui contraste avec les contributions qu'on évoquait tout à l'heure pour les super PAC.
Bien sûr. Alors, par exemple, un candidat comme Ron Paul, lui, est assez connu pour réussir à mobiliser ses électeurs eux-mêmes, c'est-à-dire électeurs middle class, ou faire des petits dons. Donc, un peu sur le système Obama. Mais comme je le disais, cette année, Obama a annoncé qu'il allait avoir recours au Super PAC. Donc lui aussi, dès lors qu'il y a la possibilité, il ne peut plus refuser. Parce que si tout le monde a plus d'argent, il a besoin d'en avoir encore plus. Donc c'est une sorte de course.
D'accord, une course au Super PAC.
On dirait du football américain.
Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Nina d'avoir été avec nous aujourd'hui de New York pour évoquer tout ce qui se passe autour de toi de l'autre côté de l'Atlantique.
C'était un plaisir d'être avec vous, même à distance.
Chers auditeurs, à très bientôt. Cette semaine, profitez aussi d'un nouveau numéro de Transversar. Et en attendant, n'oubliez pas que le monde ne suffit pas.